Salut Siri, comment tu vas ?
Je vais bien, merci. En quoi puis-je vous aider ?
48 digital. Communication numérique. Réactivité.
Digital, une émission proposée par les étudiants de l'UPVD de Mende en partenariat avec 48FM, Lozère Développement et le programme La Fabrique des Territoires.
Bien le bonjour, on se retrouve sur 48FM, il est midi et demi et je suis Robin, votre nouvel animateur pour cette édition. Alors du coup, nous sommes actuellement en live sur la chaîne YouTube de Lozère Développement et les pages Facebook de 48FM, de Pollen et de l'antenne universitaire de Mende. Comme chaque édition, l'émission est en collaboration avec les étudiants de la licence professionnelle CNEA de Mende, avec laquelle mes camarades et moi-même allons vous parler de la sécurité sur Internet et plus exactement de la cybercriminalité. Aujourd'hui, l'omniprésence d'Internet et des interfaces web en général ont ouvert beaucoup d'opportunités et le champ des possibles, mais parfois pas pour les bonnes personnes. Ces opportunités parfois malhonnêtes, voire vicieuses, sont devenues le quotidien de certaines mairies, hôpitaux, entreprises, etc. Mais aussi des utilisateurs du web de tous les jours comme vous. Pour illustrer cette menace grandissante, nous aurons comme invité Bruno Grasset, de l'entreprise Double Clic, qui est consultant RGPD, qui propose des solutions de vidéosurveillance, de stockage informatique et de cybersécurité. Et en seconde partie, nous aurons l'adjudant-chef Sabadel, gendarme spécialiste du cyberharcèlement et de la cybercriminalité. Pour m'épauler lors de cette émission, j'aurai l'aide de trois de mes camarades, Joachim, Noé et Thibault, qui présenteront à tour de rôle leur chronique tout le long de l'émission, bien évidemment en rapport avec la cybercriminalité. Pour bien commencer cette émission et pour bien comprendre de quoi nous allons parler, nous avons Noé qui va nous conter l'histoire de la les origines en tout cas de la cybercriminalité et ses enjeux de nos jours.
Merci Robin. En effet, avec l'évolution soudaine du numérique ces dernières années et la masse gigantesque de données digitales appelée Big Data, vous êtes peut-être demandé où et sous quelle forme la cybercriminalité est apparue pour la première fois. La réponse à ces questions pourrait ne pas trop vous surprendre, étant donné que les premiers cas de cybercriminalité ont eu lieu avant même qu'Internet existe, et étaient liés au vol de données. Cela fait sens, les ordinateurs, les réseaux informatiques et la toile Internet ont été conçus pour la création, le stockage, le transfert d'informations gouvernementales, ou bien encore l'échange de données d'entreprises. C'est des informations très utiles pour les individus ayant de bonnes intentions, mais un outil ouvert pour ceux avec des mauvaises. Le développement Internet et ses outils numériques liés au développement du XXIe siècle a ouvert une porte pour les criminels. En effet, la première grande vague de cybercriminalité est apparue avec l'utilisation fréquente des e-courriels, à la fin des années 80. Cette attaque consistait à envoyer un mail frauduleux de masse qu'on appellera des années plus tard un ransomware. Les premiers crimes étaient évidemment des cas d'hacking simples afin d'intercepter des informations à partir de réseaux locaux. Mais à mesure qu'Internet grandissait, les attaques et ses objectifs sont aussi développés. On parle notamment de vols de données en échange de rançons dans les hôpitaux, des assurances et très récemment un géant français spécialisé dans l'aérospatiale, la défense et la sécurité, Thales. Ces cyberattaques criminelles et ses finalités sont variées, que ce soit pour des arnaques financières sur les réseaux sociaux ou des ingérences politiques russes. Il existe un grand nombre de malwares différents. L'arme principale de ces criminels est d'utiliser la panique due au manque de formation sur les logiciels informatiques. Et comme l'évolution informatique est permanente, une protection devient vite obsolète. Alors n'oubliez pas que de simples efforts quotidiens de sécurité peuvent renforcer la sécurité de vos données personnelles. Soyez vigilants.
Merci pour cette chronique Noé, donc du coup on va accueillir pour le prochain chroniqueur Thibaut qui nous présentera plus tard sa chronique. Mais du coup on va poursuivre avec notre premier invité, Bruno Grasset, bonjour. Bonjour, bienvenue sur l'émission 48 Digital, merci d'avoir accepté l'invitation en tout cas. Vous faites partie de l'entreprise Double Clic qui est spécialisée dans la cybersécurité, mais plus exactement qu'est-ce que propose Double Clic comme prestation ?
Donc, bonjour et merci de m'avoir invité. Double Clic a 20 ans cette année, donc on est une société de services informatiques, on vend, on répare et on conseille les particuliers et surtout les professionnels. Donc depuis plusieurs années, on s'est spécialisé dans la cybersécurité. Chaque année, on passe des formations, une semaine par an, et puis on fait des certifications. Donc CyberHawk, qui est la plateforme d'Occitanie, CyberExpert, et on est aussi certifié certains logiciels et certains firewalls professionnels. Et donc on est vraiment spécialiste là-dedans.
Donc, et du coup, en quoi consiste l'accompagnement de la cybersécurité des collectivités? Vous faites beaucoup d'entreprises, etc.
Donc, on fait beaucoup de collectivités d'entreprises. Donc, pour les entreprises, pour les collectivités, pardon, si elles le désirent, on fait la première chose à faire, c'est un audit. Donc, on fait un état des lieux organisationnel. C'est-à-dire qu'on va regarder s'il y a une politique de mot de passe, une politique de login de mot de passe, une politique de sauvegarde par rapport à la collectivité. Ensuite, on va passer sur des tas de lieux physiques. Donc là, on va faire le tour plus sur les PC, les serveurs, quel âge ils ont, savoir s'ils sont à jour, savoir si les sauvegardes fonctionnent, etc. Donc tout ça va faire en fait ce qu'on appelle un cyberscore. On a un fichier Excel à peu près de 150 à 200 questions. Donc on passe toutes ces questions, on a un cyberscore, et en fonction de ce cyberscore, on va proposer un plan de sécurisation à la collectivité pardon, ou à l'entreprise. Et en fonction de ça, on va présenter soit des devis, soit après juste que de l'accompagnement.
Okay. En plus, en rapport avec ces devis, etc., et tout ce que vous avez mis en place pour toutes ces données, apparemment vous avez mis en place un data center pour héberger les données des collectivités, ouais. Des communes de l'Isère. Et depuis combien de temps et dans quel but?
Alors, on a créé une nouvelle société qui s'appelle BGM Data, qui est en relation avec DoubleClic. Je l'ai créé avec M. Jean-Marc Vigne, de Multicopie 48. Donc, ce data center est de niveau 3, à savoir qu'il y a 5 niveaux dans les data centers, c'est niveau 3. Donc, on héberge des sauvegardes pour les professionnels, pour les collectivités. Et aussi, on a une particularité en mode SaaS, c'est-à-dire qu'on héberge les serveurs et nos clients travaillent directement sur les serveurs qui sont dans notre data center. Pourquoi en Lozère ? Parce qu'on était par là. Et puis surtout, en cas de problème, on peut vous rendre la data très très vite. Et on peut reconstruire un serveur en une heure à peu près.
Et une question par rapport au niveau. Quelle est la différence entre les niveaux data center ?
Il y a les niveaux... Niveau 3, c'est qu'on a de la redondance électrique, de la redondance de data, de la redondance des niveaux de fibres. D'accord ? Après, niveau 4 et niveau 5, c'est intouchable pour nous, enfin, une part technique et puis financière.
Okay, ouais. C'est plus pour des collectivités, etc.
Oui,
pour,
et puis
pour le local.
Des gros data centers.
D'accord, très bien. Par exemple, pour les problèmes de sécurité que vous rencontrez souvent chez les particuliers, quels sont-ils, on va dire ?
Alors, chez les particuliers, c'est souvent un problème lié à la navigation. Donc le streaming, le téléchargement de films, de musique, etc. Donc souvent, si vous connaissez pas bien, vous allez sur des sites de streaming ou de téléchargement de films. Et donc là, vous risquez d'attraper des virus, des mots de passe qui sont pas assez sécurisés. Beaucoup de particuliers se font pirater leur boîte aux lettres parce que c'est des mots de passe faibles. Donc après, ils peuvent se faire soit crypto-locker, soit...
Par exemple chez des particuliers ou même chez des professionnels par exemple.
Chez les particuliers, ça arrive malheureusement régulièrement et là on n'arrive pas à résoudre le problème parce que 9 fois sur 10 ils n'ont pas de sauvegarde, donc là ce qui veut dire que leurs data sont totalement HS. Donc on leur dit bien de ne jamais payer la rançon parce que même si vous payez, vous n'êtes pas sûr de retrouver vos data, il faut aller porter plainte. D'après monsieur Sabadet vous le dira, mais il faut aller porter plainte. Et pour les collectivités, on en a une. Mais nos sauvegardes avaient fonctionné, donc on a pu restaurer la data. Et des entreprises récemment, une ou deux, c'est pareil, on a pu restaurer les data.
Mais en tout cas, il faut penser à sauvegarder toutes ces données.
Les sauvegardes, c'est primordial. Il faut externaliser les sauvegardes si vous ne voulez pas avoir de problème.
Vous avez peut-être le cloud, quelque chose comme ça pour...
Alors justement, nous, on les sauvegarde dans notre data center. Et après, ce n'est pas obligé dans notre data center. On peut très bien sauvegarder ailleurs ou externaliser les données dans une autre entreprise. Peu importe, il y a plein de solutions, mais il faut bien penser... et externaliser et à chiffrer les sauvegardes.
En tout cas, le data center que vous avez mis en place est une solution.
C'est une solution.
D'accord, très bien. Par exemple, est-ce que la Lozère est sujette aux attaques informatiques ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, par exemple ?
La Lozère, comme partout ailleurs, parce que les crypto-lockers, les hackers n'ont pas de frontières ni de limites, donc il suffit de... Je pense pas qu'il y ait des d'attaques ciblées, par contre, sur les entreprises lozériennes, parce que peut-être qu'on n'a pas d'entreprises...
Parce que on s'imagine la Lozère qui est un endroit un petit peu plus rural que partout en France.
Oui, mais on a Internet aussi, donc c'est pareil. Exactement. Non, je pense que c'est à peu près la même chose. J'ai pas les statistiques, mais ouais, nous, on a pas mal de clients qui nous téléphonent pour des virus, des choses comme ça.
Ok, très bien. Et du coup, la cybersécurité, du coup, qui est un sujet en constante évolution, quelles sont les nouveautés marquantes selon vous ? Par exemple, vous avez dit que vous suivez pas mal de formations, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses qui...
À l'heure actuelle, les firewalls, c'est des pare-feux que l'on met en amont, devant les entreprises, si vous voulez, sont de plus en plus puissants, de plus en plus complexes. Donc, traverser un firewall, c'est très compliqué. On a les firewalls actifs et passifs, donc ça, pour mettre en entreprise, c'est très bien. On a les nouveaux antivirus qu'on appelle EDR ou XDR. Qui ne fonctionne pas comme un antivirus, ça, L'EDR analyse le comportement de votre ordinateur, donc il fait de la proaction, c'est-à-dire il va essayer de vous alerter que quelque chose se passe mal sur votre réseau informatique. Donc à partir du moment où on a des alertes, le but du jeu c'est d'avoir des alertes et essayer de contrecarrer ce genre de choses.
Okay, très bien. Après voilà, le data center que vous avez mis en place pour les communes de Nozère, était-il déjà victime d'une attaque informatique par exemple?
Alors directement non, mais par contre nous on a des systèmes de protection, on a des logs tous les jours et... entre 500 et 600 attaques journalières sur notre data center. C'est-à-dire que c'est pas ciblé forcément à nous, c'est souvent des robots, mais nous tous les soirs on a un journal d'événements qui se passe, donc il faut c'est un travail de tous les jours quoi.
Et c'est déjà arrivé par exemple pour des clients qui n'utilisent pas forcément votre data center d'avoir été attaqué?
Ah ben oui, malheureusement on en a eu des clients, une entreprise là en Inde récemment qui s'est fait cryptoloquer, donc voilà, qui
n'y avait pas par exemple de sauvegarde.
Non, ouais.
Ah, non, du
donc
coup,
ça c'est après, c'est
on,
très dangereux.
On revient toujours sur la même chose. Et donc du coup, je pense que maintenant nous allons directement Thibaut qui va nous présenter les origines des attaques sur les systèmes informatiques de nos hôpitaux, je crois.
C'est ça. Alors pour en revenir, je vais vous présenter pourquoi les hôpitaux sont-ils visés par les cyberattaques. Donc avant de parler depuis quand ces attaques sont présentes, il est important de rappeler qu'aujourd'hui, de plus en plus, nos hôpitaux s'informatisent. Ce qui fait qu'ils deviennent des cibles de choix pour les cyberattaquants, et de plus les activités y sont critiques et le système fonctionne tout le temps. En attaquant les hôpitaux, les cybercriminels pensent donc que ce côté urgent amènera plus facilement au paiement d'une rançon. De plus, avec la pandémie du Covid, la vigilance du personnel a baissé en se focalisant plus sur le Covid et non sur la sécurité informatique, qui a donc eu lieu sur le CHU de Rouen. Cette attaque visait une faille informatique et non l'hôpital d'après certaines sources. Néanmoins, depuis cette attaque, c'est 27 attaques majeures en 2020 et 733 incidents de sécurité, dont environ une centaine d'attaques informatiques qui ont été répertoriées tout en France. Il est donc maintenant intéressant de comprendre les objectifs des attaquants. Donc le plus connu est par les établissements pour les revendre sur le marché noir. Il est intéressant de savoir qu'un dossier médical peut se vendre jusqu'à plus de 300 euros sur le marché noir. Et maintenant, comment ces attaques sont donc réalisées? Alors en général, c'est les hackers qui envoient un lien frauduleux, puis un virus qui va paralyser le système informatique. Bien sûr, il existe de nombreuses autres façons. Toutes ou quasiment presque. Et ces groupes sont appelés des bandes. Le Digol, expert en cybersécurité chez WatchGuard, a dit lors d'une interview qu'aujourd'hui les attaques étaient très professionnelles, que l'argent du piratage rapportait même plus que l'argent de la drogue aujourd'hui. Le risque est donc désormais que des escrocs utilisent les données accessibles pour monter de nouvelles attaques ciblées, en utilisant les informations personnelles à leur disposition pour capter la confiance de la victime. Mais quels sont donc les risques causés par de telles attaques? Les problèmes causés par ces attaques, ils sont nombreux, en allant du trafic de données, comme j'ai pu l'illustrer avant, jusqu'à la mise en danger de la vie de certains patients. Car oui, comme en avril 2022, avec l'hôpital de Verdun, certains réseaux informatiques sont directement touchés, pouvant déstabiliser tout le personnel et donc toutes les machines mises à disposition à l'intérieur de l'hôpital. Donc pour en conclure, tout cela prouve bien que malgré tous les efforts mis en œuvre et tous nos investissements, nous ne serons jamais protégés à 100% réellement face aux cyberattaques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les formations autour de la cybersécurité et de la réaction face aux attaques sont de plus en plus préconisées et importantes.
Voilà. Merci Thibaut en tout cas pour cette chronique. Et donc du coup, on pourra rebondir sur ce qui a été dit par exemple. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des institutions publiques comme des hôpitaux, maisons médicales, etc.?
Alors, des hôpitaux, on en a juste en fourniture. Et après, on a beaucoup de maisons de retraite, donc les cadres de santé, les maisons de santé, des cabinets médicaux. On en a, oui. Donc on connaît la valeur de la data de santé. Ouais.
D'accord, très bien. Et par exemple, est-ce qu'il y a déjà eu... Est-ce que ces hôpitaux ou en tout cas ces infrastructures ont un système de sécurité informatique, on va dire à la page? Ou en tout cas, est-ce qu'ils ont de quoi se défendre contre des cyberattaques?
Les hôpitaux, je ne les connais pas, donc je ne peux pas vous dire, mais ils ont déjà des services informatiques qui sont... Ils n'ont pas de problème, performants. Ouais. Okay. Après, nos autres clients, on essaye de faire augmenter la cybersécurité, mais c'est toujours compliqué parce que la cybersécurité coûte cher, donc il faut quand même allouer un certain budget. Donc c'est toujours compliqué, mais oui, on essaye.
Ok, ok, très bien. Et les particuliers sont aussi la cible d'Orange Logiciel ou est-ce que exclusivement les entreprises ?
Ah, tout le monde.
Tout le monde ?
Tout le monde, oui. Que ce soit les particuliers, les entreprises, c'est sûr que pour un hacker ou pour une entreprise qui hack, c'est plus lucratif d'avoir une entreprise parce qu'elle est susceptible de payer ou susceptible d'être vraiment embêtée, mais bon, tout le monde.
Ok, ok, très bien. Et on va dire, est-ce qu'il y a une sorte d'espionnage avant d'une victime pour, ou est-ce que vraiment c'est aléatoire la façon dont tu...
Alors c'est aléatoire, mais après sur les grands groupes ou sur par exemple les hôpitaux, il y a souvent des arnaques au président, c'est-à-dire que les hackers se font passer pour quelqu'un de la direction petit à petit par mail et ça peut durer des semaines et des semaines et un jour ou l'autre, cette personne qui a votre confiance, vous envoie un cryptolocker et là vous pouvez crypter vos data.
Du coup, souvent, c'est plus des personnes physiques que des robots qui viennent récupérer de l'information.
En général, oui. En général, oui.
Okay.
Mais bon, après, en informatique, tout se fait.
Ah, c'est ça. Et par quelle porte les hackers, on va dire, rentrent dans le système informatique pour voler des données ?
Alors, avant de rentrer dans un hôpital qui ont souvent des firewalls très puissants, c'est très très compliqué. Donc, à part si c'est une attaque ciblée, c'est très compliqué. Donc, comme je vous disais, ça prend souvent par mail des pièces jointes vérolées, du phishing, donc une page web qui ressemble à quelque chose que vous connaissez. Donc, quand vous cliquez dessus, ça peut apporter sur un autre cryptolocker, l'arnaque au président, une cafetière, parce qu'à partir du moment où vous avez n'importe quel périphérique qui est branché sur un réseau informatique, ça peut être hacké. Donc c'est pour ça qu'il faut protéger que ce soit les ordinateurs, mais n'importe quoi que l'on branche sur un réseau informatique, il faut le protéger.
Par exemple, quand on voit dans les hôpitaux, il y a beaucoup de prises Ethernet à vue. Est-ce que par exemple, ça aussi, c'est une porte d'entrée?
Il faut espérer que rien ne soit branché derrière, mais théoriquement, oui, ça peut être une porte d'entrée. Ouais. Donc le problème, c'est que quand vous téléchargez un cryptolocker, je crois que ça s'est passé dans les hôpitaux récemment, vous le téléchargez, vous l'exécutez, mais c'est pas sûr qu'il se lance tout de suite. Il va se lancer la nuit, quand les gens sont moins au courant, ou dans un ou deux mois. Donc c'est très compliqué. Une fois que c'est rentré, c'est très compliqué.
Ah mais donc du coup, ça peut être vérifiable. Ça veut dire que ça prend du temps à se mettre en place. Et si quelqu'un le voit, il peut l'arrêter à temps.
En général, ça ne se voit pas. Quand c'est rentré, ça
ne se voit pas.
Ouais, okay. Ça dépend des outils de protection que vous avez, mais ça peut être très compliqué. Ouais.
Ok, d'accord, très bien. Et est-ce qu'il y a des chances que des logiciels malveillants puissent se démocratiser dans les années à venir et devenir monnaie courante, ce qui est déjà peut-être le cas?
C'est déjà le cas, je crois, comme disait votre collègue, ça rapporte tellement d'argent, donc je pense que oui, ça va. Et puis...
C'est plus à une certaine élite, hein. Vraiment, je ne vais pas dire tout le monde peut faire ça, mais ça
commence à... Malheureusement, quasiment, parce que ça devient presque des entreprises qui font ce genre de choses. Vous pouvez même acheter des souches, des souches de virus.
D'accord, d'accord, très bien. Et par exemple, votre entreprise, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des hackers, des white hat ou même des hackers éthiques ?
Non, personnellement, j'en connais pas. Nous, quand on fait des pen tests, des tests d'intrusion chez nos clients, donc là, on est en train de faire un audit dans une grosse collectivité et c'est directement l'ANSI qui nous fait le test d'intrusion.
Ah, d'accord. Et c'est pas des personnes, on va dire, qui ont un passif, on va dire, dans l'intrusion.
Je peux pas vous dire, je n'en connais pas. Ouais. Okay, on travaille pas.
Et même quand vous avez dit que vous faisiez des formations par rapport à, pour vous remettre à niveau dans tout ce qui est le domaine cyberinformatique et même la cybersécurité, est-ce qu'on vous apprend, on va dire, à rentrer, pas de manière illégale, mais même à rentrer dans un système informatique?
Oui, bien sûr. En fait, c'est le but du jeu, c'est de connaître comment on rentre et pour essayer de contrecarrer. Là, mon technicien Cyril part en formation d'ici une quinzaine de jours, une semaine, où il va voir et apprendre comment hacker des systèmes.
D'accord.
Donc pour pouvoir justement comprendre comment ils arrivent à rentrer.
Ouais, ça fait partie des formations.
Ouais,
donc du coup, et aussi vous rentrez dans les systèmes, mais aussi vous préparez des systèmes au cas où il y a une attaque. Et aussi, à ce que j'ai cru comprendre, vous faites de la pédagogie peut-être auprès des entreprises.
Oui, on fait de la sensibilisation parce qu'enfin, il y a un manque de sensibilisation et de formation au niveau des usagers, du personnel. Donc on essaie de faire la sensibilisation au cyber-risque, voir que ça peut être vraiment très préjudiciable pour les entreprises et ça peut même arriver au niveau pénal pour certaines personnes. Mais après, M. Sabanel, vous en direz
au niveau pénal, d'accord, très bien. Et par exemple aussi, il y a des choses qui, sur Internet, les jeunes ne savent peut-être pas que c'est illégal. Donc du coup, peut-être que vous leur faites savoir.
Alors oui, ouais, après, les jeunes sur Internet, oui. Enfin, c'est...
Parce que du coup, il y a entre ce milieu, est-ce que vous avez des entreprises ou même des particuliers qui ont eu des problèmes avec...
Au niveau
de la loi, etc.
Au niveau de la loi, non, pas à ma connaissance. Enfin, en tout cas, nos clients, non, mais il peut y avoir du vol d'identité, ça c'est très dangereux. Après, ça peut poser des préjudices énormes.
Avec les réseaux sociaux.
Ouais, les réseaux sociaux, non. Moi, on n'a pas eu de système d'harcèlement. En tout cas, nous, dans la boîte, on n'a pas eu ce genre de choses à gérer. Ouais.
Ok, très bien. En tout cas, merci. Merci d'être venu pour toutes ces précisions et toutes ces activités que vous avez pu nous conter, que sur la cybersécurité. Et pour notre part, nous allons faire une petite pause pour préparer le plateau pour notre prochain invité, qui est l'adjudant-chef Sabadell de la Gendarmerie nationale. On se retrouve dans quelques instants. Du coup.
So baby, listen to me. Yeah. I want to love you, baby. Drink my wife for the day. Be my date for the night. Till the end of man's age. I used to see girls plenty. Now you the only one. I'm not the same I used to. Now I just wanna use you. I wanna love you, baby. Be my wife for the day.
Open your secret doors, for I come deep inside. Your secret life enclosed in this place we call love.
You chilled my lonely heart. My dreams are full of birds singing old melodies. Came through the middle age talking about you, babe,
but not a word about me.
Not a word. I wanna love you.
Not
baby.
A word about me.
Be my wife for the days. Be my date for the night. Till the end of man's age. I wanna love you.
About me. Not a word about me. Now you, the only one, the only one, but not a word about me. The only one.
Talking about you, babe. Not a word. I wanna love you.
Not a word about me.
Be my wife for the days. Be my date for the night. Till the end of man's age. I want. Love you, baby. Be my wife for the day.
Rebonjour du coup, re-bienvenue et bienvenue en tout cas pour ceux qui nous rejoignent sur l'émission 48 des Génitales. Pour ceux qui rejoignent encore l'émission, on se retrouve dans cette seconde partie d'émission avec l'adjudant-chef Sabadell qui va nous parler de cybercriminalité du côté de la gendarmerie. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gendarme spécialiste du cyberharcèlement et de la cybercriminalité. Comment la gendarmerie intervient-elle sur le net ?
Alors l'histoire de la gendarmerie et de la cybercriminalité, elle est assez ancienne. Les premiers stages de cybercriminalité en gendarmerie datent de 2001. Donc on estime à l'arrivée de l'internet domestique à peu près autour des années 2000. Donc en 2001, nous on crée nos premiers enquêteurs. Et en fait depuis, c'est une formation qui n'a fait que évoluer jusqu'à aboutir depuis 2012 à un partenariat avec l'Université des Technologies de Troyes, où donc on va passer une licence professionnelle avec un diplôme qui est taillé pour les forces de l'ordre. Pour lutter contre la cybercriminalité. Et à côté de ça, la gendarmerie a structuré, jusqu'à encore très récemment, il y a eu plein de réformes ces derniers temps, toute une chaîne qui s'appelle la chaîne Cybergende, depuis Paris aux organes spécialisés, jusque dans les régions, jusque dans les départements, avec des formations ciblées, dédiées de différents niveaux dans diverses thématiques, comme sur la crypto-monnaie ou sur les enquêteurs sous pseudonyme. Donc c'est quelque chose d'assez
ancien. Il y a une grande variété de postes, on va dire, dans la gendarmerie qui touchent l'aspect de la cybercriminalité.
Tout à fait. Pas forcément,
parce que j'ai compris, c'est la cybersurveillance aussi.
Alors, en fait dans la chaîne, il y a effectivement des gens qui sont chargés aussi de surveiller ce qui se passe sur Internet, d'infiltrer les réseaux, il y a plein de spécialités.
Il y a de la veille, etc.
Il y a de la veille qui est faite par les unités en centrale. Moi, j'ai plus une mission de criminalistique numérique, donc d'analyse de matériel informatique, mais il existe tout plein de spécialités en fait dans la chaîne.
Ok, d'accord, très bien. En plus, vous avez dit depuis les années 2000 quand même, c'est-à-dire une bonne présence de la gendarmerie sur le web. Et aussi, vous avez parlé aussi des formations. Donc du coup, pour être gendarme, il faut avoir, on va dire, une formation. Est-ce qu'il faut savoir, par exemple, espionner ?
Alors, pour être cybergendarme, la difficulté, c'est qu'il faut non seulement être... Il y a une composante judiciaire et une composante technique. Donc pour faire un bon cybergendarme, il va falloir un petit peu des deux. Donc la première des choses, c'est d'être geek en fait. C'est d'aimer les nouvelles technologies, c'est d'aimer se remettre en question, c'est d'aimer tester des nouvelles choses. Donc ça, c'est la partie entre guillemets facile, parce que quand on fait quelque chose qui nous plaît, ça va vite. Et après, il y a toute la partie qui est liée au métier de gendarme. Donc il faut d'abord être gendarme et ensuite se spécialiser dans la cybercriminalité. Donc il faut aimer les enquêtes judiciaires, il faut avoir cet aspect enquêteur. Et avec tout ça, vous faites un cybergendarme.
Faire respecter la loi sur le net.
C'est ça.
Et aussi, du coup, j'imagine, peut-être pas votre branche, mais vous faites de la prévention.
Alors oui, on fait de la prévention. Alors historiquement, ça évolue tout le temps parce que dans la thématique, il faut évoluer beaucoup. On a des dispositifs de prévention scolaire sur les thématiques de la cybersécurité, sur les réseaux sociaux, sur le cyberharcèlement, sur la cyberviolence, qui est quelque chose qui est en constante évolution sur Internet. Là, il y a encore des efforts à faire, mais on est en train d'essayer aussi de déployer des choses pour faire monter le niveau de cybersécurité des collectivités territoriales, des entreprises. C'est quelque chose qui est assez compliqué. Il faut nouer des partenariats, ça rentre un petit peu dans toute cette histoire de label cyber et compagnie. Enfin, il y a l'écosystème en fait doit se construire et doit vivre autour de ça.
Vous avez parlé de cyberviolence, c'est quoi la cyberviolence exactement ?
Alors les cyberviolences, si on prend un point de vue pénal, hein, c'est-à-dire ça va regrouper plusieurs choses. On peut penser à tout ce qui est diffamation sur les réseaux sociaux ou appel à la violence dans les commentaires aussi. Des fois aujourd'hui, tout le monde, notamment les jeunes, poste des vidéos sur Internet ou quoi que ce soit, et donc ouvrent un pan de leur vie à l'Internet. Donc là-dedans, vous allez avoir des retours qui vont être très bienveillants, et puis il va y avoir aussi des retours qui vont l'être beaucoup moins. Et parfois, ça donne lieu à des situations qui sont vraiment catastrophique.
Du coup, une très grosse présence sur les réseaux sociaux, etc.
Oui.
D'accord, très bien. Du coup, la cyberviolence qui est quelque chose que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, est-ce que c'est considéré comme des cybercriminels, les gens qui font de la cyberviolence ?
Alors, il y a un terme générique. D'un point de vue pénal, non. Donc, pénal, il y a trois types d'infractions, les contraventions, les délits, les crimes. Après, la cybercriminalité englobe toute la délinquance, tout l'écosystème de délinquants, ce qui se passe sur Internet. Donc voilà, oui, on peut considérer que ce sont des délinquants du net mais des criminels, le terme est un peu fort. Okay. Du moins, il y a un aspect judiciaire à la criminalité.
Est-ce qu'ils sont sujets à une contravention, etc. Ou
alors,
à une poursuite,
les contraventions, peut-être. Il en existe peu. À ma connaissance, il n'en existe qu'une qui touche net, c'est la diffamation, diffamation 5 publique et sans conséquence sur les réseaux. Mais par contre, il existe énormément de délits et on peut même aller jusqu'au crime. Par exemple, le fait de diffuser des informations qui seraient contraires à, comment dire, qui mettraient en péril l'État.
Des fake news, par exemple ?
Alors, les fake news, on est sur du délit.
On est sur du délit.
Ouais, c'est des. Notamment, alors, plus il y a des circonstances aggravantes, plus il y a des conséquences en fait, à ce qu'on fait, plus la peine est importante. Donc, des délits, ce sont des infractions qui sont punies de peine de prison.
Ah, d'accord, très clairement, des peines de prison. à la Lozère ou plutôt au niveau national ?
Alors, je rejoins un petit peu ce qu'a dit M. Grasset tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, alors, statutairement, et puis au niveau de mon implantation et du découpage, voilà, je suis cantonné à la Lozère. Je suis affecté donc à Mende et je travaille sur le département. Après, Internet n'a pas de limite. Donc, nous, quand on démarre un dossier ici, qu'on remonte un petit peu, on tire le bout de ficelle pour essayer de remonter les choses, ben, assez régulièrement, même 90% du temps, on atterrit en dehors du département et parfois même en dehors de la France.
Et vous travaillez probablement avec d'autres brigades, d'autres villes.
Tout à fait, avec donc, des coup, homologues. Il y a, nous, on est maillé un petit peu sur tout le territoire. Donc, des cyber-gendarmes, entre guillemets, il y en a partout en France. Donc, après, les dossiers voyagent jusqu'à arriver à l'endroit où les personnes doivent être interpellées ou s'il y a des investigations à faire sur place.
Ah, d'accord, okay, très bien. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une augmentation de l'hameçonnage, du phishing, encryptage des données, etc.
Complètement. Alors, clairement, depuis le Covid, l'essor du télétravail et compagnie, donc tout ça, c'est arrivé dans une société où on n'était pas forcément préparé à tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont fait à la hâte. La cybercriminalité a fait qu'augmenter depuis 2000. Je pense qu'on est quasiment à 50% de plus chaque année. L'évolution stagne un petit peu sur les chiffres actuels, là. Mais oui, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Là.
D'accord, très bien. Et quel type d'attaques sont les plus représentées en tout cas ?
En Lozère, on a beaucoup d'escroqueries. Beaucoup d'escroqueries au sentiment, beaucoup d'escroqueries, la petite annonce, enfin de l'escroquerie basique, l'escroquerie au compte professionnel de formation, ça c'est le truc à la mode. On a eu pas mal d'escroqueries aussi qui touchaient des sociétés ou des collectivités sur des remplacements de RIB. Donc des gens qui rentraient dans les qui arrivaient à intercepter des mails entre une collectivité et puis un client et faisaient des échanges de RIB et du coup l'argent au lieu d'arriver dans les caisses de la mairie ou dans les caisses de la société arrivait sur un compte qui était extérieur et puis sur des attaques déjà plus techniques, plus informatiques, on a du ransomware, on a eu l'occasion de travailler ensemble avec Monsieur Grasset sur les choses et il y en a eu pas mal sur le département.
Est-ce que vous avez peut-être la personne type qui subit, on va dire, ces attaques au quotidien ?
Alors, il n'y a pas de personne type. Il faut comprendre que quand on met en place, par exemple, une attaque de type ransomware, on met de côté, on va mettre en place un vecteur de diffusion, qui est souvent un vecteur lié à la messagerie, hein, parce que c'est le principal vecteur de diffusion. Et à côté, il y a un autre vecteur qui sert à maintenir un niveau de communication avec les victimes et à assurer le paiement, la réception des fonds en crypto-monnaie, généralement. Donc, au moment où le vecteur est décidé, on ne sait pas quelle forme ça va prendre en fait sur le réseau. Vous envoyez grosso modo une bombe de mailing avec une base de données de mail que vous avez récupérée et vous ne savez pas ni qui va cliquer, comment ça va évoluer ça sur le truc. Donc on est sur des attaques qui sont non ciblées. Donc le vecteur peut très bien arriver dans une mairie, chez un particulier, dans une société, ici à Pollen. Voilà. Après la différence, est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher, ça va être un mix entre le niveau de sécurité informatique technique de l'établissement qui reçoit l'attaque et puis le niveau aussi de connaissance et d'hygiène informatique de la personne qui va y être confrontée.
Donc très bien. Proviennent de France ou plutôt, je pense plutôt d'ailleurs, non ?
Alors plutôt d'ailleurs, sur les attaques techniques, effectivement, on a quand même des teams qui sont identifiés qui sont plutôt à l'étranger. Après, il faut savoir que le but numéro un, bien entendu, de tous ces schémas d'escroquerie, c'est de faire de l'argent, on est bien d'accord. Et aujourd'hui, si la tête de ces réseaux est souvent à l'étranger, il y a besoin de petites mains quand même en France. Ne serait-ce que pour, je vous donne un exemple, aujourd'hui, on a pas mal de schémas d'escroquerie qui partent de certains pays d'Afrique, qui en ont fait presque une profession. Beaucoup de services monétaires français interdisent en fait les transactions quand ils identifient des adresses IP qui proviennent d'Afrique. Pour pallier à ça, en fait, du coup, il faut des intermédiaires en France qui vont pouvoir faire écho à ça et travailler avec des ordinateurs qui sont implantés en France, vont pouvoir ouvrir des comptes bancaires, notamment sur des néobanques, des comptes en ligne sur le sol français, pour pouvoir réceptionner des fonds et après les envoyer dans un second temps à l'extérieur du pays. Donc les réseaux sont très organisés, c'est ce qui était dit tout à l'heure par votre collègue, et font appel également à des gens sur le sol. Il ne faut pas s'imaginer que tout est à l'étranger, qu'on peut rien faire là-dessus, il y a quand même des choses à faire en France.
D'accord. Et donc du coup, pour rebondir sur ça, est-ce qu'il y a un grand banditisme du web ? Est-ce qu'il y a
un... Alors le grand banditisme, il a toujours existé, je ne sais pas toujours, mais il existe depuis très longtemps, et forcément il y en a un sur le web parce que la technologie numérique a facilité en fait un certain nombre de choses. Donc oui, il en existe dans des thématiques diverses et variées, il y en a qui sont spécialisées dans les escroqueries, il y en a spécialisées dans le trafic de drogue, il y en a spécialisées dans les attaques informatiques ou dans la récupération de données, mais oui, du grand banditisme, il en existe, oui, bien sûr.
D'accord. Et donc, du coup, coup aussi, j'imagine que ça doit être, ça se passe sur le web que tout le monde voit, ou est-ce qu'il y en a aussi sur le darknet que vous voyez?
Bonne question sur les deux, parce que tout le monde ne va pas sur le darknet, et tout le monde ne sait pas y aller, donc forcément on limiterait son nombre de victimes s'il fallait se cantonner à ceux qui savent y aller. Par contre, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le darknet, alors il faut démystifier la chose, le darknet est une partie illégale du net qui n'est pas indexé par les moteurs de recherche. Donc tout ce qu'on voit, tout ce qu'on est capable d'accéder à partir de Google, c'est l'internet indexé, l'internet classique. Il en existe en fait tout un tas d'autres auxquels on ne peut pas accéder facilement. On peut rajouter là-dessus après du cryptage, enfin il y a plein de choses à rajouter. Dans tous les cas, il y a une partie de cet internet qui contient du contenu illégal, et c'est ça qu'on appelle le darknet. On y trouve énormément de choses. Ce que je racontais juste avant l'émission, j'y étais encore la semaine dernière pour un dossier. On trouve effectivement des kits starter pour déployer du ransomware, on trouve de la fausse pièce d'identité, on y trouve de la drogue, on y trouve des armes, on y trouve plein de choses, et y compris des choses qui sont livrables en France assez facilement.
Et vous êtes présent, on va dire, plus sur le web classique ou plus sur le
Alors, sur les deux, la difficulté après va être dans l'identification des... Le Darknet, en fait, assure, de par sa conception et de par les outils qui sont utilisés, qui sont imposés par les gens qui utilisent cette partie-là, nous limite au niveau technique, parce qu'il y a des couches de cryptage, il y a des couches d'anonymisation, il y a des technologies qui font que ça devient compliqué. Par contre, la faiblesse... pour le coup, là, on renverse un petit peu les choses avec les malfrats. La faiblesse, elle est sur l'humain. Donc souvent, il va falloir essayer d'infiltrer les réseaux. Ce que je vous disais au début, on a des gendarmes qui sont spécialisés là-dedans et qui vont essayer de remonter en fait ces réseaux-là en se faisant passer pour quelqu'un qui veut commettre des méfaits et compagnie. Et c'est la faiblesse à utiliser, là, elle est humaine, elle n'est pas forcément technique.
Donc du coup, c'est plus les personnes, on va dire, qui sont la faille sur le net que plutôt l'appareil. Ok, très bien. Mais donc du coup, je pense qu'on va pouvoir commencer avec la chronique de Joachim, qui va nous parler des attaques, des différents types de hackers, un peu ce qui est présent sur le Darknet et tout ça.
Bien, merci Robin. De nos jours, il est possible de simuler une cyberattaque en passant par certaines méthodes, mais les personnes qui veulent apprendre des piratages n'ont pas toutes les mêmes intentions. Certains sont mal intentionnés, comme le Black Hat, le profil type du hacker malveillant. Il peut exploiter les failles de sécurité à des fins lucratives pour voler ou détruire des données privées. Il peut aussi modifier ou perturber ou fermer des sites web et réseaux. Les cyberattaques peuvent aussi servir à discréditer une personne, à révéler des secrets, déstabiliser une institution ou avoir plus d'avance sur la scène géopolitique. Parmi les attaques les plus utilisées, on retrouve les malwares ou les virus, les ransomware ou rançons logicielles comme vous l'avez expliqué. Le phishing aussi, très utilisé de nos jours, consiste à envoyer des emails qui semblent provenir de sources fiables dans le but d'obtenir des informations personnelles avec un faux lien ou une pièce jointe contenant un virus. On retrouve aussi les attaques par déni de service. Elles ont pour but de sursaturer la capacité d'une machine par l'envoi simultané de requêtes. On a aussi les attaques par force brute, utilisées pour trouver des mots de passe, ou bien les injections SQL, destinées à contourner ces mesures de sécurité et accéder à des données protégées. Une fois sur le site, il peut prendre le contrôle de la base de données et pirater les informations concernant ses utilisateurs. A l'inverse, on retrouve le hacker White Hat, aussi appelé hacker éthique. Ils sont souvent engagés par des organisations pour effectuer des désintrusions, le but étant de communiquer les failles de sécurité pour ainsi assurer la protection des systèmes. En général, pour simuler une cyberattaque, légalement, il est possible de s'entraîner sur ce qu'on appelle des CTF ou Capture the Flag. Le but est de simuler une attaque mal intentionnée, dans laquelle l'attaquant tente de capturer un drapeau. Plus précisément, cela consiste à placer un mot dans un fichier bien caché, un programme ou un site web. Le CTF est principalement utilisé pour l'éducation à la cybersécurité, et les études ont tendance à montrer que les étudiants répondent mieux aux méthodes de ce type plutôt qu'en salle de classe traditionnelle. Il existe un dernier type de hacker qu'on appelle Grey Hat, un mélange des deux. Cet hacker est généralement dans la légalité, mais ne rapporte pas forcément les failles de sécurité à une entreprise. Par exemple, il peut choisir de révéler une faille à d'autres hackers avant de prévenir l'entreprise ou l'institution concernée. Il peut aussi choisir de ne rien dénoncer du tout et recherche les éventuelles failles d'application ou relatives à un site internet, en respectant une certaine éthique dans le cadre de la diffusion de l'information. Pour finir, la plateforme de cybersécurité participative BugCrowd regroupe plusieurs hackers éthiques, et leur récent rapport montre que plus de 8 hackers éthiques sur 10 affirment avoir identifié une vulnérabilité qu'ils n'avaient jamais vue auparavant. La plupart d'entre eux estiment qu'ils ne sont pas en mesure de sécuriser les entreprises tout au long de l'année. C'est un réel problème pour les entreprises et le monde en général, car plus le domaine de l'informatique évolue et plus l'on trouve de nouvelles vulnérabilités, on pourrait finalement se demander s'il serait préférable de se contenter des systèmes que l'on maîtrise déjà.
Eh bien, merci Joachim pour toutes ces précisions, en plus en rapport avec tout ce qu'on voyait. Et du coup, pour rebondir sur ça, y a-t-il des hackers dans les rangs de la police ou même est-ce que vous travaillez avec des hackers?
Alors, il faut démystifier déjà ce qu'on entend par hacker. Si on entend la personne qui hack des mots de passe et des bases de données au fin fond d'un hangar avec le sweat et la capuche sur la tête, donc non, on n'a pas ça chez nous. Par contre, si on entend effectivement des gens qui sont en capacité de contourner en fait des mots de passe ou de révéler des mots de passe ou d'accéder à des données chiffrées, tout ça, oui, il y en a, puisque c'est quelque chose qui fait partie de notre formation. Donc, moi, je mets régulièrement ça en place dans les analyses de matériel tout au long de l'année. Donc on est obligé de, c'est un peu comme ce que disait Monsieur Grasset tout à l'heure lors des formations de cybersécurité, on est obligé en fait d'étudier et de mettre en pratique des techniques de hack pour juste, ne serait-ce que pour comprendre en fait comment ça fonctionne et pour pouvoir mieux se préparer quand on est en face d'une situation de hacking. Au-delà de ça, parfois, on est toujours dans le cadre de la loi, on est bien d'accord, puisque nous, ce qui va définir le cadre, bien entendu, c'est la loi. Parfois, on peut être amené à casser un mot de passe, ne serait-ce que sur un système qui est verrouillé, un téléphone dont la personne ne voudrait pas nous communiquer le mot de passe, ou un conteneur chiffré avec de la donnée où on a besoin d'accéder dans le cadre d'une enquête. À partir du moment où on est dans le cadre de la loi, nous, on met en place les protocoles de hacking et ça fonctionne plutôt pas mal.
Dans le cadre de la loi, d'accord. Et aussi, en pensant à ça, les hackers, est-ce que vous avez déjà été visé par une attaque, quoi que ce soit?
Alors, non. Non. On n'a pas à ma connaissance. La gendarmerie, non. Après, on est... on a un bon niveau de sécurité, même si c'est pas une garantie, c'est pas une invitation non plus pour tous les hackers qui peuvent nous écouter d'aller essayer de hacker la gendarmerie. Dans tous les cas, non, c'est jamais arrivé, pas à ma connaissance.
Et vu que c'est une institution publique qui a probablement des informations, etc., est-ce que même en France, c'est souvent victime, comme les hôpitaux par exemple?
Alors, des attaques, il y en a tous les jours, et il y en a tous les jours par milliers, hein, si on doit les compter.
Contre la gendarmerie?
Alors, pas contre la gendarmerie, les trucs. Contre la gendarmerie, je pense qu'il y a des attaques régulières. Alors, j'ai pas accès à ça, parce que du coup, notre système est protégé. Alors, nous, on a un service quand même informatique qui s'occupe de la cybersécurité et de penser les systèmes et l'infrastructure de la gendarmerie au niveau national. Ça s'appelle le STIC Carré. C'est des gens qui existent depuis très longtemps. On a aussi un héritage militaire lié à la fuite de données, à lutter contre la fuite de données. Donc si vous voulez, les décisions qui sont prises sur le long terme pour structurer la gendarmerie, elles tiennent compte déjà depuis longtemps en fait de toute cette problématique cyber. Donc aujourd'hui, on a un parc informatique qui a largement évolué. On s'est tourné vers du libre. Donc on a un système qui fonctionne sous Linux. On a plein de logiciels qui sont libres de droit pour la simple et bonne raison que ce service-là étudie le code de tous les outils en fait qu'on déploie et va parfois jusqu'à le modifier ou le nettoyer pour se débarrasser des choses dont la gendarmerie n'a pas besoin et qui potentiellement pourraient créer un problème de sécurité. Par exemple, nos pilotes d'imprimantes, ça va jusque-là, sont nettoyés par la gendarmerie. Donc voilà, on a quand même un niveau de sécurité qui est assez élevé, donc je pense que ça reste un challenge. Oui.
Ok, très bien. Et vous avez parlé au tout départ qu'il y avait le matériel aussi qui fonctionnait. Est-ce que vous faites des interventions, on va dire, sur le terrain pour récupérer, par exemple, des données qui ne sont pas sur le web, mais on va dire sur un disque dur, une clé USB, etc.?
Ah, complètement. Ça fait partie même de ma mission numéro 1. Dans l'idée, si pour les besoins d'une enquête, on a besoin d'aller regarder ce qui se passe dans un ordinateur, dans un serveur, dans un téléphone, dans un drone, une montre connectée, à peu près n'importe quel support, une voiture connectée, l'objet va soit être saisi et ramené ici dans mes bureaux à Mende, soit il y a certaines opérations qu'on peut faire sur place, donc dans ce cas-là, on se déplace.
Et selon vous, existe-t-il suffisamment de brigades numériques pour, on va dire, pas endiguer la cybercriminalité, mais est-ce que vous avez suffisamment de force de frappe, on va dire?
C'est ça. C'est pas un problème de nombre de brigades. Je pense que la gendarmerie est aussi à l'image de la société. On a réalisé il y a quelques années que il y avait cette problématique-là qui montait en puissance au milieu de toutes les autres et qu'il fallait donc du coup des gens formés pour lutter contre ça. Donc clairement, donc c'est quelque chose qui est en train de se faire. Il faut quand même savoir que la force de la gendarmerie pour lutter contre ça. Donc, à ce titre-là.
Est-ce qu'il y a aussi des interpellations par exemple de hackers? Ou directement.
Ah ben, complètement. La dernière en date, une des unités qui a vocation nationale et internationale, qui s'appelle le C3L, le Centre de lutte contre les cybercriminalités, a la semaine dernière monté une opération avec des interpellations au Canada, en Belgique, pour les gars qui avaient déployé le ransomware Lockbit. Je sais pas si vous en avez entendu
parler.
À l'international. Ouais. C'est ben aujourd'hui c'est les enjeux en fait, la problématique de pendant des années en fait on a travaillé plus ou moins en autonomie parce que la structure, l'organisation judiciaire de la France est comme ça. On travaille sur des par département, par secteur, par parquet, donc par tribunal de compétence. Et la cybercriminalité elle fonctionne pas comme ça. Donc il a fallu effectivement s'habituer. Il a fallu aussi réfléchir à une législation un petit peu différente pour pouvoir travailler plus efficacement là-dessus. Et aujourd'hui, assez régulièrement, il y a des interpellations qui ont été faites. Alors, il y en a eu plein. Hein. Il y a eu récemment aussi une filière qui a été arrêtée de gens qui volaient des voitures haut de gamme, en fait, qui étaient avec des serrures électroniques et qui s'étaient spécialisés dans le vol de véhicules où ils pouvaient rentrer et démarrer les véhicules sans clé sur des véhicules haut de gamme. Donc ça, c'est pareil. C'est la gendarmerie aussi qui était aux manettes là-dessus. Il y a assez, tout au long de l'année, c'est comme tout augmente. La cybercriminalité augmente, la réponse à la cybercriminalité augmente. C'est le jeu du gendarme, du chat et la souris, ou du gendarme et du voleur, comme on veut.
D'accord. Avec tout ça, ouais. Et même les profils type hacker, on va dire. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on croit, comme vous avez dit, la personne dans son garage avec sa capuche, ou vraiment c'est des profils complètement
atypiques ? Il y a un peu de tout. Alors, je vais pas redire, effectivement, c'était très juste ce que vous avez dit sur les catégories de hackers, cette histoire de black hat. Ouais. C'est plutôt après, ce qui est important, c'est leur motivation. Je pense qu'aujourd'hui, il y a déjà une bonne partie des gens qui sont en capacité de mener des actions techniques comme ça, qui sont intéressés par l'argent. C'est le moteur numéro un. C'est beaucoup moins risqué aujourd'hui de mener une campagne de ransomware ou d'escroquerie sur Internet que d'aller braquer une banque. Hein. Ça, c'est clair. Vous prenez moins de risques et vous gagnez plus d'argent. Ça, c'est évident. Après, on trouve d'autres types de motivations. On peut avoir aussi ce que nous, on appelle les noobs, hein, tout simplement. Donc, des gens qui vont trouver sur Internet ce qu'on appelle les kiddie scripts. Donc, c'est un peu des trucs clés en main pour aller hacker un site Internet, pour aller hacker un truc. Ils ont juste envie de le faire pour voir s'ils vont y arriver et après pouvoir dire « j'ai réussi à le faire ». Donc, ça, c'est pas forcément ceux qui font le plus de mal, mais techniquement, ils font du hacking. On a aussi ce qu'on appelle les activistes, donc ceux qui vont hacker avec une raison derrière, soit politique, soit idéologique, soit écologique, soit, donc on a tout ça. Et puis, après, ça peut être plein d'autres choses, ça peut être de l'espionnage, alors ça c'est en marge, tout ça, ou pour nuire à des fois à une personne en particulier. Mais la majorité des attaques, quand même, sont non ciblées aujourd'hui en France. On l'a vu encore sur l'histoire avec les hôpitaux et compagnie, c'était pas ciblé. Ça ciblait par le vecteur de diffusion, ça ciblait en fait une sphère médicale, mais ça ciblait pas tel hôpital en particulier.
Et du coup, même si c'est à l'international, comment ces gens sont jugés ? Qu'est-ce qu'ils encourent ?
C'est là que les choses deviennent compliquées, toute la partie technique et toute la partie, après, juridique. C'est-à-dire que nous, on a nos lois qui ne s'appliquent forcément qu'en France. Donc ensuite, il faut nouer des accords avec les autres pays. C'est assez facile en zone euro. C'est déjà plus compliqué, en fait, quand on sort de ça. On a des accords, par exemple, avec des grandes sociétés aussi, comme Facebook, Google, ou ça, pour pouvoir aussi les requérir et obtenir des données dans le cadre des enquêtes. Tout ça, en fait, ça demande une négociation et en fait des transactions en fait au niveau de la chancellerie à Paris. Et donc, il faut arriver à faire coïncider ce droit à l'international. Donc, si vous allez interpeller quelqu'un au Canada, ben, ce sera le droit canadien qui va privilégier. Ça crée parfois quelques problématiques. Je vous donne un exemple, par exemple, sur Facebook. Sur Facebook, c'est la loi américaine qui s'applique. Donc, si un compte Facebook sert à faire une infraction sur le sol français, mais qu'il n'y a pas son équivalent dans le droit américain, Facebook, en fait, refusera de travailler avec nous. Voilà, donc il faut tenir compte aussi de toute cette problématique-là, qui est une problématique qui est juridique et politique, en fait. C'est des négociations, des accords.
Du coup, si vous faites une intervention sur un réseau social et que vous avez besoin d'informations du réseau social et qu'il ne vous le donne pas, vous êtes...
C'est ça, on est coincé. C'est alors aujourd'hui, heureusement, sur les principaux canaux, on a des accords qui sont signés, on a des choses très très efficaces, y compris sur des réseaux comme Snapchat, qui sont un peu réputés comme étant éphémères, sécurisés, tout ça. Heureusement, on s'en est servi il n'y a pas longtemps pour une disparition de mineurs. Ils ont mis quoi, 5 minutes à nous répondre pour avoir la géolocalisation de la personne et tout ça. C'est heureusement qu'il y a ce travail-là qui est fait en amont et qu'on peut s'en servir assez facilement.
Donc du coup, quand même, il y a une bonne communication entre les réseaux sociaux, on va dire, populaires et
les principaux.
L'agenda.
Ouais, quand on commence après à sortir sur des trucs un petit peu plus exotiques, il y a des sociétés aussi qui font de l'argent avec ça et qui n'ont aucun intérêt à signer des accords avec l'État français ou à quelconque État. Je pense notamment à certaines sociétés de VPN. Donc le VPN, c'est un système qui permet d'anonymiser ces connexions sur Internet. Il y en a certains, en fait, c'est leur fonds de commerce, de dire « nous, on communique avec personne, on est basé dans un paradis fiscal je ne sais où, et vous inquiétez pas, vos données chez nous, on les donnera pas à la gendarmerie ». ça peut plaire à un certain nombre de personnes.
Et du coup, il n'y a pas un côté illégal sur ça? C'est complètement légal
L'illégalité, le problème, c'est qu'elle est liée à la loi qui s'applique. Donc, si c'est la loi française, elle s'arrête aux frontières de la France. Voilà, c'est toute la... Voilà, la problématique, elle est planétaire, du coup. Du moins, à tous les endroits où il y a Internet.
Bon, mais merci pour tout ça.
Mais avec plaisir, merci de m'avoir invité.
Et donc, du coup, voilà, on va clôturer cette émission de 48 Digital sur ça, sur ces belles chroniques, sur ces invités. Et on se retrouve à la prochaine.